manque de validité de cette œuvre.
Ou alors, le manque d'existence de ce pacte. C'était soit accepté, soit se laisser exterminer par les mécréants. Le prophète Mohammed a accepté ces clauses. Parmi les clauses, c'était que si un musulman décide de faire la ride d'Aïd et fuit pour se rendre à la Mecque, qu'il soit accueilli à la Mecque et qu'on ne le renvoie pas à Médine. C'est-à-dire qu'on leur a imposé quelque chose de son contraire et le prophète a validé. Les ignorants diront que le prophète avait validé l'injustice parce qu'ils n'ont pas compris les kawaïs de la charia, parce qu'ils n'ont jamais humé à l'odeur de la science. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était projeté dans son raisonnement, dans son analyse, dans le futur. Il a vu ce que pouvait apporter comme fruit, c'est l'acceptation de ce pacte. Et c'est pour ça qu'il a validé le pacte. Maintenant, nous ne devons pas être de l'extrême gauche ni de l'extrême droite. Nous devons prendre la position du juste milieu. À la lumière de ce que nous avons compris, ça veut dire que les musulmans qui vivent dans les pays laïcs doivent réfléchir par rapport à la solution. Et même s'ils envoient leurs enfants, ils doivent considérer l'envoi des enfants comme étant une solution ou un mal nécessaire permettant d'atteindre l'objectif. On doit sortir de cette situation. Mais le problème avec les musulmans qui envoient aussi leurs enfants, c'est qu'ils ne les envoient pas sur ces bases-là. Je ne sais pas si on a compris. C'est qu'ils n'envoient pas sur ces bases-là, qu'ils ne pensent pas à sortir de cette situation. Est-ce qu'au Cameroun, il n'est pas autorisé d'avoir des écoles, ce qu'ils appellent des écoles confessionnelles? C'est permis. Même si le Cameroun oblige ceux qui ont des écoles confessionnelles de respecter certains principes de l'État. C'est déjà un début de solution. C'est déjà un début de solution. Il y a y croire. Et qui vous dit que si on revendique à l'État camerounais d'éradiquer certaines lois qui ne s'accordent pas avec l'éthique islamique, si on le revendique en suivant les principes de l'islam dans nos revendications, qui nous dit que ces revendications seront rejetées? Mais c'est parce que les musulmans n'ont pas, ou alors certains qui ont pris le devant de la scène, qui parlaient de ces sujets, ne les traitent pas comme la science voudrait que ces sujets soient traités. C'est l'heure. S'attaque aux emblèmes de l'État, pensant qu'ils sont en train de faire la dawa, donc qu'ils sont en train de créer les problèmes aux musulmans. Voilà, pour l'Ihal, on ne peut pas traiter la question de l'école occidentale. Ce n'est pas ça le thème de notre séminaire. Mais ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est attirer l'attention sur ce genre de sujet. Barakallahu fikum. Qu'est-ce qui nous a dit? Al-Mahabba. Non, c'est parce que j'avais pris l'exemple des parents qui envoient leurs enfants à l'école parce qu'ils pensent que l'envoi des enfants à l'école produit le bien. Et c'est pour ça qu'ils viennent de l'école. Pas parce que l'école en soi c'est le bien. C'est à cause des conséquences de l'école qu'ils aiment l'école. Donc, quand on médite sur les conséquences de la ilaha illallah, on se rend compte qu'on doit aimer la ilaha illallah. Et quand on aime une chose, on accepte cette chose. Comme ses parents ont aimé l'école, à cause de ce que l'école a engendré. Parce que moi, quand j'explique, j'aime ramener la chose à la réalité que nous vivons. Ceux qui envoient les enfants à l'école, non? Est-ce que c'est au fond, c'est parce qu'ils valident tout ce qui se passe à l'école? Parce qu'ils pensent que l'école, c'est le bien. Non, ils ont accepté l'école parce qu'ils pensent que quand on passe par l'école, on accède à un certain nombre de bienfaits. Et à cause de cet amour, ils ont accepté l'école, malgré les difficultés que cela implique. L'enfant doit se réveiller à 7h du matin, chaque jour on doit donner 50 francs, chaque jour on doit se battre et tout. On a accepté. Parce qu'on aime l'école à cause de ce que l'école produit. Donc, quand on aime la ilaha illallah, parce qu'on sait ce que la ilaha illallah produit, on doit accepter la ilaha illallah et de se soumettre aux lois de la ilaha illallah, aux implications de la ilaha illallah. Et c'est ça la condition qui al-kaboul. On doit accepter ce qu'implique la ilaha illallah. On doit accepter de vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala, de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir tous nos actes d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rechercher que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos œuvres. C'est ça l'acceptation. On doit se soumettre à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux implications de la ilaha illallah. Et c'est quoi la dernière? On a cité les six, non? C'est quoi la dernière condition? Non? Al-inqiyad. Quand on accepte quelque chose, cela implique al-inqiyad. C'est la soumission de son être à cette chose-là, aux lois de cette chose-là. C'est ça al-inqiyad. Et c'est ce que nous avons développé quand nous avons parlé de al-qaboul. Quand on a accepté la ilaha illallah, on doit se soumettre à la ilaha illallah. On doit soumettre son être à la ilaha illallah. Et quand on soumet son être à la ilaha illallah comme il se doit, on ne vit plus que pour la ilaha illallah et on ne meurt plus que par la ilaha illallah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Regardez ce qui a fait du prophète le premier croyant, le premier musulman. قل dit إن صلاتي ma prière ونسكي mes actes de dévotion ومحياي ma vie tout cela appartient à Allah. Et je ne recherche qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout cela. Ça veut dire que je ne vis que selon la ilaha illallah. Je ne prie que pour Allah. Je ne vous mes actes de dévotion qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne vis que pour Allah. Vivre pour Allah, c'est vivre selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et mourir pour Allah, c'est mourir en pleine soumission. Ma voix de mot, c'est mourir en pleine soumission. Car Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et ne mourrez qu'en pleine soumission. Voilà, mourir pour Allah. Ce n'est mourir qu'en pleine soumission. Et on ne peut atteindre ce degré que lorsqu'on a concrétisé la ilaha illallah par la concrétisation de ces conditions. Hadha huwa al-qabul. La sharika lahu wa bidhalika umirtu. Il n'a point d'associé. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a recommandé. Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le premier des musulmans. Ce qui a fait de lui le premier des musulmans, c'est ça. C'est la concrétisation du tawhid. Donc on ne peut être musulman que lorsqu'on a suivi le premier des musulmans dans la concrétisation du tawhid. Ça, c'est ce qu'on peut dire en résumé des conditions de la ilaha illallah. Maintenant, on a fini de manière concise, ou alors concise, avec le premier fondement. Avec le premier fondement, jusqu'ici on est encore à Ta'budullah. On n'a même pas encore pris voilà tu shriku bihi. C'est maintenant qu'on finit avec le premier fondement, qui est adoré. Donc, le premier fondement parmi les fondements par les biais duquel on adore Allah. On attaque le deuxième fondement qui est Omar Ifatou. Maintenant, si on connaît Allah, puisqu'on doit l'adorer, on doit connaître l'adoration qu'on doit vouer à Allah. Et il faut savoir que cette adoration a une voix qui s'appelle Al-Millah. Ça a son chemin. Yani ces adorations en série constituent un chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce chemin, c'est l'islam. Donc on doit connaître l'islam, qui est l'ensemble des actes d'adoration légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. La religion auprès d'Allah c'est l'islam et tu te dois de l'adorer. Si la religion auprès de lui c'est l'islam, ça veut dire que tu te dois de connaître l'islam, d'où l'obligation d'apprendre l'islam par le biais des preuves évidentes. وقال الله تعالى ومن يقتري غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Quiconque emprunte une voie autre que celle de l'islam, on n'acceptera pas de lui. Donc on doit connaître l'islam, l'acte qu'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir de quoi cet acte est constitué. Et regardez comment tout tourne autour de la tawhid. On ne peut pas parler d'Allah sans parler de tawhid. On ne peut pas parler de l'islam sans parler de tawhid. Parce que le premier pilier de l'islam, c'est la ilaha illallah. Quand Jibril a interrogé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa'akhbirni anil islam, qala antashhad allah ilaha illallah. L'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a point de dignité, digne d'adoration à part Allah, que tu accomplis les saintes prières comme il se doit, et nous allons développer, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le jeûne du mois béni de Ramadan, et que tu accomplis le hajj de manière globale, c'est ça l'islam, dans sa globalité. Donc c'est cette religion que tu te dois d'apprendre. Mais maintenant, tu ne peux connaître l'islam et l'appliquer que si tu l'as pris comme celui qui l'a transmis. Ce qui implique que tu dois savoir celui de qui tu prends. Et que la chaîne de transmission, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'on doit connaître le prophète? Parce que la connaissance du prophète implique qu'on accepte la religion et qu'on l'accepte comme prophète et comme le modèle. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset dit, en parlant de mes créants qui avaient rejeté le message, qui avait rejeté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit awalam ya'rifu rasulahu awalam ya'rifu rasulahum amhum lahu munkirun. Ne connaissait-il pas leur messager? Ou alors il rejetait juste le message. Ça veut dire qu'en réalité la connaissance du message implique l'acceptation de son message qui est l'islam. Donc on ne peut pas parler de l'islam sans connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la relation entre les trois, entre Allah, la religion et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui le porteur du message, le transmetteur du message qui est l'islam. Donc on doit le connaître pour connaître la nature de son message. Donc on doit connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand on connaîtra le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça nous permettra d'être à l'abri des innovations. Ça nous permettra d'être à l'abri des innovations. Parce qu'on adorera Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec ce qui avait été enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le suivisme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une condition parmi les conditions d'acceptation de l'acte. On doit suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut suivre le prophète si on ne connaît pas le prophète? Si on ne connaît pas ce qu'il détestait? Si on ne sait pas ce qu'il aimait? Ce vers quoi il appelait? Ce contre quoi il mettait en garde? Donc nous devons connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons connaître sa moralité, sa personnalité, pour savoir distinguer ce qui a la même nature que ce qu'il a prêché. Christ veut voir, il a appelé. Et distinguer cette chose de ce qui est à la nature, de ce qui ne provient pas du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que les pieux prédécesseurs connaissaient qui est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils connaissaient le prophète que lorsqu'il arrivait parfois qu'ils écoutent un hadith inventé. Regardez comment ce que produit la connaissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils entendaient un hadith fabriqué qui ne provient pas du prophète, ils disaient « Hazal kalam les samim mishkat il nubuwa ». Même sans étudier la chaîne de transmission, on y met déjà l'odeur de la fabrication. Il dit que cette parole, il est impossible qu'elle provienne de la source de la prophétie. Parce que quand ils ont étudié le prophète, ils ont compris la moralité du prophète. La qualité des propos qui sortaient de la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'éducation qu'il a donnée à sa communauté. Vous voyez comment la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam protège, permet d'être à l'abri des innovations, des exagérations. Donc on doit connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un autre fondement. Et cette connaissance implique automatiquement son suivi.
Non.
Quand on apprend qui est le prophète Muhammad sallam et comprend qui il est réellement, on le suit automatiquement. Il dit que laissez la barbe, on laisse. Coupez le pantalon, on coupe. On ne se pose pas de questions de ce que pensent les autres. En fait, tous ceux qui ne suivent pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est en partie grâce à leur, parmi les musulmans, hein, c'est en partie à cause de leur manque de connaissances sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, subhanallah, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'accorde avec les enseignements du texte du Coran et de la Sunna. Et le manque de connaissances du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam expose aux innovations. Je vais citer un exemple. Yahi, quand tu étudies la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est censé être ton modèle, tu te rends compte que lui qui est ton modèle n'avait jamais célébré sa naissance. Est-ce que tu peux célébrer sa naissance? Donc en réalité, ceux qui célèbrent la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont un manquement dans leur connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas lu la biographie du prophète Muhammad? Non. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que la science en islam, la connaissance en islam. Et n'ont pas soumis leur connaissance aux règles de la charia. Parce que la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du point de vue de l'islam implique qu'on le suit. Implique qu'on le suit. Ça veut dire que celui qui connaît le prophète sans le suivre, en réalité ne le connaît pas encore. Du point de vue islamique. Et nous avons dit que lorsque nous utilisons les expressions qui ont été utilisées par la charia, nous devons donner à ces expressions la connotation que lui donne la charia. Et ce n'est non celle que nous leur donnons. En charia, Kullu bid'atin dalala. Et chez les innovateurs, c'est divisé en deux catégories, la bonne bida et la mauvaise. Alors que dans la charia, il n'existe qu'une bida, qui est celle qui mène à l'égarement. Donc la compréhension de cette règle nous met à l'abri de ce genre d'exagération et de dérapage. Donc, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit sans connaître le prophète. Et quand on connaît le prophète comme il se doit, on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la ilaha illallah, qui est un pilier de la shahada, se concrétise par quoi? Par le suivissement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez le rapport entre les textes? Je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez le rapport entre les textes. C'est pour ça qu'en réalité, on ne peut comprendre la charia que si on la prend dans sa globalité, sans rien laisser. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Oh, vous qui avez cru, entrez dans la religion dans sa globalité. Prenez tout. Ne prenez pas une partie du texte, vous laissez d'autres parties. Comme l'ont fait ceux qui sont passés avant nous, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre leur attitude. Malheureusement, il y a parmi ceux qui se revendiquent d'être de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui suivent cette méthodologie. Alors qu'Allah a mis en garde clairement dans le Coran, « Afatouminou nabibad il kitabi, wa takfourou nabibad » Croyez-vous en une partie du texte et vous détournez-vous d'une autre partie. Et c'est lui qui nous a enseigné comment accomplir les saints prières, c'est le même qui nous a ordonné de laisser là-bas. C'est le même qui nous a interdit de laisser pousser, de laisser traîner nos pantalons. C'est le même qui nous a mis en garde contre les innovations. Pourquoi tu crois au test relatif à la prière, aux enseignements de la prière, pris comme le prophète a enseigné et rasé ta barbe? Crois-tu en une partie des tests et de l'étude? Une autre partie? Allah dit Faba yaza umayyaf aluzalika illa khizyum fil hayati dunya. Quelle peut donc être la récompense de celui qui se comporte de cette manière, si ce n'est l'ignominie? Ici sur terre, voyons mal prière, matiyuraduna ila ashadil azab, et le jour de la résurrection, ils seront retournés vers un châtiment douloureux. Wamallahu birafilin amma ta'malou. Méditez bien sur la fin du verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cependant, n'est pas un soutien vis-à-vis de ce que vous faites. Toi, l'innovateur, c'est que tu es en train d'innover. Allah n'est pas un soutien, mais Il t'a avisé. Donc, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un fondement parmi les fondements de la charia. Et on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit que par le biais de la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au lieu d'enseigner à nos enfants qui sont les joueurs de football, le salaire qu'ils reçoivent, les clubs dans lesquels ils ont joué, et où ils jouent aujourd'hui, et où ils sont censés aller demain. Alors que cela, même ici, tu sais, ne nous rapporte aucun bien. Yaki, quand tu connais le salaire de Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que ça t'apporte dans ce bas monde? Dans quel club il joue? Comment il joue? Le nombre de ballons d'or qu'il a obtenu? Ce n'est pas ça qui fait mal. Ce n'est pas ça qui est grave. C'est que parmi les musulmans qui connaissent ça, qui connaissent sa généalogie, il y en a qui ne connaissent pas la généalogie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne connaissent pas la moralité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui fait mal. Qui fait même très mal. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par le prophète Muhammad sallam? Et parmi les fruits de cette connaissance, c'est que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, c'est parce qu'en réalité il doit être le modèle de tous ceux de qui nous nous devons de prendre la fiance. Parce que l'héritage de ce messager, ce qu'il a laissé comme héritage, c'est la fiance. Et la fiance, c'est notre religion. Méditez bien sur ce que j'ai dit, méditez sur les rapports entre les textes. Révisez sur les rapports entre les textes. Ce prophète que nous sommes censés connaître, qui est notre modèle, ce qu'il nous a légué comme héritage, c'est la science. Et la science, c'est notre religion. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos prédécesseurs qui l'ont interprété comme ça. Qala Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, inna hadha al-ilma dinun. Hakaza fahimu. Hadha huwa fahmu salaf al-salih. Certes, cette science est votre religion. Et c'est ça l'héritage légué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maintenant. Fambourou amman ta'khuzuna dinakum. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Rassurez-vous qu'il est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala vous a demandé de prendre. Rassurez-vous qu'il fait partie de ceux qui suivent le modèle qui fait partie de ceux qui ont hérité de l'héritage, qui ont usé l'héritage et qui ont accédé à une partie de l'héritage. Ceux qui utilisent ce même hasard pour mettre en garde contre les étudiants anciens, du point de vue islamique, ne sont même pas ceux qui devraient se prononcer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ne sont pas connus pour avoir reçu l'héritage. Ils ne sont pas connus pour avoir reçu l'héritage. Parce que ceux qui ont reçu l'héritage, ce sont ceux qui ont été éduqués par ceux qui ont reçu l'héritage, qui sont les savants. Inna al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers du prophète. Ça veut dire que ceux qui seront les savants demain, et ceux qui seront les héritiers des héritiers du prophète, c'est ceux qui vont étudier, c'est ceux qui sont les héritiers. ولذلك العلماء يقررون أن العلم بالتلقي وأن العلم يتلقى من أقواله الرجال. C'est pour ça que les savants disent de manière claire et établissent clairement que la science s'acquiert par le biais des assises des sciences. Et on apprend de la bouche des savants. C'est pour ça que, en réalité, si nous sommes sérieux envers nous-mêmes, nous allons mettre en quarantaine tous les ignorants qui parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux-là qui ne sont pas connus pour avoir étudié. Nous ne devons même pas de les écouter à la base. Ya akhi, quand t'envoies un voice, non? Rassure-toi que celui que tu es en train d'écouter là, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'autorisation d'écouter. Parce que c'est la religion d'Allah, ce n'est pas pour toi. Tu dois faire comme Allah demande. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'il est éloquent qu'il doit parler. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien et qu'il est éloquent qu'il doit parler. C'est parce que quelqu'un a étudié et qu'il est connu pour avoir étudié qu'il doit parler, qu'il doit se prononcer. Donc, la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous permet également de vérifier ceux de qui nous prenons notre religion. Puisqu'on connaît le prophète, et cette connaissance implique qu'on sache ce qu'il a légué comme héritage, et qu'on sache qui sont ses héritiers, et ceux qui sont formés par leurs héritiers. Vous voyez comment la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met à l'abri de la menace qui prône sur cette communauté en ce moment l'acceptation de tous ceux qui parlent. De nos jours, le savant, c'est celui qui monte sur le mimbar, et non celui qui a été formé par les savants, et non celui qui a appris, et non celui qui a reçu l'autorisation de celui qui l'a formé de transmettre. Et ça, c'est un problème qui a un rapport avec la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والإسناد من الدين كما قال عبد الله ابن مبارك. La chaîne de transmission fait partie de la religion. Ya akhi, pour prendre de quelqu'un, il faut te rassurer que sa chaîne de transmission va jusqu'au modèle qu'il a appris, de ceux qui ont 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 appris, des tabiins, de ceux qui ont appris, des compagnons, de ceux qui ont appris du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de la vérification de cette chaîne, fait partie de la religion. Pourquoi? لأن لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Ni la chaîne de transmission, celui qui veut allait dire ce qu'il veut. N'importe qui allait dire ce qu'il veut. Mais parce qu'il y a une chaîne de transmission, qu'il voudrait qu'on sache où est-ce que la personne a étudié et qui lui a donné l'autorisation de se prononcer. Mais ceux qui n'ont pas étudié devraient se calmer. S'ils ont envie de parler, qu'ils aient étudié. C'est pour ça que nous avons toujours dit que la salafia, ce n'est pas crier dans les réseaux sociaux. Salafia, 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 c'est une bonne parole. C'est une bonne parole. Mais les bonnes paroles n'atteignent Allah subhanahu wa ta'ala que par les biais des œuvres pieuses. Vous avez compris? Ça veut dire qu'une personne peut chanter Salafia chaque jour sans que sa parole n'atteigne Allah. Juste grâce à que ses actes viennent élever sa parole auprès d'Allah. Vous voyez comment la charia est profonde. Le musulman doit être vrai. Tu dis que tu veux faire la dawa, c'est qui a légiféré la dawa? Quelles sont les conditions que celui qui a légiféré la dawa a prescrit? Il faut passer par ce chemin. Donc, ceux qui disent que c'est la fille à la hisbiya, wallahi, ce n'est pas parce que quelqu'un a crié que hisbiya, que ce qu'il dit est hisbiya. C'est parce que ce qu'il dit être hisbiya s'accorde avec les règles de la science, comme étant la hisbiya, que cette chose est hisbiya. Ça veut dire que si on a une grosse voix, si on a une grosse voix, et qu'on est suivi par une bande d'aliénés, et qu'on chante la salafie à chaque jour et la tisbi à chaque jour dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas cela qui fait de ce que nous disons la vérité. Qui fait que ce que nous disons est vérité. Jusqu'à ce que cette parole s'accorde avec les règles de la science. Or, dans la science, la bonne parole, sa place est auprès d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est yat'adou. C'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la bonne parole est élevée. Est-ce que dire que la salafia n'est pas une bonne parole? Est-ce que appeler les gens n'est pas sur le sentier d'Allah n'est pas une bonne parole? Oman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qui est plus bon en parole que celui qui appelle vers Allah? Donc la bonne parole, sa place est auprès d'Allah. Parce que la bonne parole est élevée auprès d'Allah. Mais écoutez la suite du verset. والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه et c'est la bonne œuvre qui élève cette bonne parole. Tu peux chanter la ilaha illallah, quand les œuvres qui s'accordent avec la ilaha illallah ne viennent pas élever la ilaha illallah, la ilaha illallah ne te sera d'aucune utilité. Tu peux chanter la salafia, prétendre faire la dawa salafia tant que tu ne sors pas, parce que c'est ça l'œuvre ici. Tant que tu ne sors pas, emprunte le chemin de la recherche de la science, te sacrifie et étudie. Tu ne seras qu'un bon parleur et un ignorant qui l'ignore, qu'il est ignorant. Parce que l'ignorant qui sait qu'il est ignorant et qu'il va parler. Mais l'ignorant qui ignore qu'il est ignorant va parler en pensant qu'il est savant. Ça veut dire qu'il ignore qu'il est ignorant. C'est même pour ça qu'il a parlé. Et comme ils sont nombreux, ces ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants. Et c'est quelque chose qui avait été prédit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous rappelons ces textes, ce n'est pas pour qu'on accepte cette situation, parce que même le prophète là, il l'a rappelé, ce n'était pas pour qu'on accepte cette situation si elle arrive. C'était déjà pour nous mettre en garde contre cette situation, et que si on en arrive à cette situation, qu'on fasse pour sortir de cette... Qu'on fasse tout pour sortir de cette situation. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعة. Il viendra des années trompeuses. Les hommes vivront jusqu'aux années trompeuses. Hey. Quelles sont les caractéristiques de ces années qui ont été qualifiées par les années? Qui ont été qualifiés des années trompeuses par le prophète sallam. Il dit Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu al-amin. À ce moment bien précis, quelque chose d'étrange se produira. Wa yantiqu waybida faqila ya rasul Allah. من هم الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. محمد صلى الله عليه وسلم جاء عند نياله caractéristique de ces années trompeuses. Le véridique sera traité de menteur. Wallahi, c'est ce que nous voyons de nos yeux. Un savant connu pour sa science, dévoué dans la da'wa, on l'écoutera et dit qu'il s'est trompé, qu'il a même menti. C'est ce qui arrive. Non. Quelqu'un qui est connu pour être un véridique, il va parler. Quelqu'un qu'on ne connaît pas de lui, le mensonge. Il viendra des années où cette personne va parler. Et nous craignons que ce soit, nous soyons dans ces années. Cette personne va parler, on va les traiter de menteur. Et le menteur qui est connu, Wallahi, qui ment nuit et jour. C'est lui-là même qui croit, c'est qui dit ce qui, même quand il parle avec lui, lui-même il le ment. Malgré ça, il va croire à ce qu'il dit. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, pas parce que c'est la vérité, mais parce que ça s'accorde avec sa passion. La seule chose qui l'a motivé à accepter ce mensonge, c'est parce que ça s'accorde avec sa passion. Et on traitera de fidèle l'infidèle, l'imposteur, le traître. Et on traitera des traîtres de fidèles, l'assidu dans ses engagements. Ça fait partie de ses caractéristiques. T'as dit, pourquoi le prophète nous donne les caractéristiques? C'est déjà pourquoi on évite ces comportements. Mais il y a un autre enseignement et une autre chose plus importante. C'est qu'en ce moment précis, lorsqu'on observera ces caractéristiques, il se produira quelque chose de grave et de dangereux. En ce moment, les Rouébida vont commencer à parler. Les Rouébida vont commencer à parler. Les compagnons ont donc demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont les Rouébida? Et ceci confirme la règle que nous avons dit. Est-ce que les compagnons n'étaient pas des Arabes? Est-ce que Rouébida n'est pas un terme arabe? Mais quand le prophète a parlé, ils ont compris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas allusion à la connotation linguistique par ces termes, mais à la connotation scientifique de la charia. C'est pour ça qu'ils ont interrogé le prophète. Qu'est-ce que Rouébida avait dit dans la charia? Qui sont ces gens contre qui tu mets en garde? Parce que nous devons de les connaître pour prendre garde. Il a dit à Rajoul Tafi. Arrajoul Attafi, une personne légère, c'est une personne légère, légère dans sa science, légère dans son raisonnement, légère dans son comportement, légère dans son apparence. Arrajoul Attafi, parce que la science est lourde, et quand on étudie, on devient un poids lourd. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Nous allons révéler sur toi des propos lourds qui feront de toi un poids lourd. C'est pour ça que même certains parmi les mécréants ont attesté que s'il y a quelqu'un qui pouvait diriger le monde entier, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faites des recherches, il y a des philosophes qui l'ont confirmé, qui l'ont affirmé, que s'il y a quelqu'un qui pouvait diriger tout le monde entier parmi les hommes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'après avoir reçu les paroles lourdes émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est devenu un poids lourd. Et ceux qui le suivent héritent de son héritage en étudiant au pied de ses héritiers, devient fortement des poids lourds. Donc, Rouébida ne peut pas être quelqu'un qui a étudié et ne peut être qu'une personne qui est légère dans sa science, qui a lu quelques deux livres et s'est fait appeler Albani, Shoukani, Al-Asqalani, Allahu Akbar, Ibn Taymiyyah. Ces gens-là ont des gros noms. Ils ont tous des gros noms et des petits rendements. Le vrai chef d'Albanie avait un gros nom et des grands rendements. Si vous doutez, j'étais en cours de silsilati al-ahadith sahiha, aussi silsilati al-ahadith ba'ifa, pour ne citer que ces deux grands livres dans, parmi les livres du Cheikh, rahimahullah. Contrairement à ceux qui se sont autoproclamés des Albaniyoun, qui ont pris le nom d'Albanie, rahimahullah, sans prendre la science de Albanie. Parce que pour prendre la science de Albanie, il faut emprunter le même chemin qu'avait emprunté à l'Albanie. Pour prendre le nom de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il faut emprunter le chemin qu'avait emprunté Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, si on veut être comme lui réellement. Parce que nous avons dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous déployez l'effort qu'Ibn Taymiyyah avait produit, vous allez accéder à la science. Ceux qui se battent sur notre sentier, nous allons les guider. Allah promet à ceux qui empruntent le chemin de la recherche de la science de leur accorder la science, même si ils seront différents dans le degré. Donc, qui sont les Rouaibida? Ce sont des gens légers qui veulent réformer la communauté sur la base de l'ignorance. Est-ce que c'est possible? Si tu veux réformer la communauté, emprunte le même chemin qu'avaient emprunté ceux qui ont réformé la communauté avant toi. Le chemin de la recherche et de la science. Si tu veux faire la dawa, suis les règles de la dawa établies par celui qui l'a légiféré. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يا مبارك في une preuve évidente sur la science. Moi ainsi que ceux qui me suivent, voilà la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc un rajul tabi, c'est celui qui se lève pour parler de la religion sans science. Parce que le prophète a dit fi amr al-amma, sur les affaires de la communauté qui concerne toute une communauté, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que pour appliquer cette règle, nous avions dit tout à l'heure que si quelqu'un décide de ne pas envoyer son enfant à l'école, est-ce que rien que pour ça on va dire qu'il est rajul tafi? Non. Parce que c'est son enfant. Et parce que ce n'est pas un problème de la communauté, c'est son problème. Ça le concerne et il sera interrogé par Allah. Mais quand on te lève pour interdire à tous les enfants musulmans d'aller à l'école, d'appeler les gens vers cette idéologie, si on n'a pas la science, on est rajul tafi, bilachat. Non, si on est une personne légère dans sa science, et pour être léger dans la science, non, il faut être du nombre de ceux qui ne sont pas allés étudier, du nombre de ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié. Parce que quand on étudie, on devient poids lourd, c'est ce que nous avons dit. Et ça annule en nous cette qualification. On parle ici de la science utile, bien sûr. Allez, ça va aller. Donc, est-ce que pour les musulmans qui vivent dans un pays laïque, ce n'est pas là un sujet sérieux qui concerne la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire que si on avait compris les hadiths, qui devrait se prononcer sur ce sujet? Les poids lourds, les savants et les étudiants en sciences. Non, parce que les roués ne doivent pas parler. Parce qu'ils sont légers dans leur science, légers dans leur raisonnement. Parce que quand on est léger dans la science, non, on ne peut qu'avoir qu'un raisonnement léger. On ne peut avoir qu'une compréhension légère. On ne peut qu'avoir des attitudes légères. Vous voyez pourquoi la science est importante? Pourquoi la religion de l'islam est la religion de la science et la religion de la clairvoyance? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis sa communauté en garde contre les personnes légères dans leur science, légers dans leurs attitudes, dans leur analyse, dans leur compréhension, dans leur raisonnement, dans leurs solutions. Il y a qui, quand tu vois des solutions qui ne peuvent pas tenir, ce sont des solutions légères, mais les solutions qui sont basées sur la science sont les solutions durables, qui permettent de résoudre les problèmes présents, les problèmes présents et ceux du futur. Et ces solutions ne peuvent venir que des savants et de ceux qui ont étudié. Yéhoua, c'est ça la vérité à la lumière de la science. Et si quelqu'un veut contredire ce que j'ai dit, ce n'est pas un problème. À condition qu'il parle sur les bases de la science. Parce que nous connaissons ces personnes-là. Comment est-ce qu'ils font? Et comment est-ce qu'ils font pour emballer les jeunes? Pour emballer les jeunes, ils peuvent aligner au moins le nom de cinq savants quand ils parlent, sans jamais citer un verset. Sans jamais citer un dalil. Ya ikhwa al-ulama yutadallu lahum wa la yutadallu bihim. Quand on prend les propos des savants, on mesure ces propos sur la balance des textes de la révélation. Et on soutient ces propos avec les textes de la révélation. Mais on ne fait pas de leurs propos des preuves. Donc, la première méthodologie qu'ils utilisent pour emballer les jeunes, c'est qu'au lieu de citer les preuves de leurs arguments, de leur opinion, ils citent les noms des savants qui n'ont pas compris les propos. Parce que dans la majorité des cas, quand tu prends les propos qu'ils utilisent, c'est comme les Shabbats qui les suivent, en réalité ce sont des Rouhébida aussi. C'est des personnes qui sont aussi légères dans le suivisme. Il suffit qu'on cite le nom d'un chef pour qu'il soit emballé. C'est pas ça l'islam. Il faut être ferme. S'attacher au test. Ya Yahya, khudh al-kitab bi quwwa. Ya akhi, quand tu t'accroches au test de la révélation, même si c'est chef d'un bas qui vient pour te faire bouger de la position, il faut que tu regardes plutôt la preuve citée par le chef d'un bas. Pas cher Albani, pas cher Othémi, pour abandonner ce que tu pensais être la vérité. Ça veut dire que les propos des savants ont besoin d'être soutenus par les textes. Et ça veut dire qu'en réalité, les propos des savants peuvent nous aider à comprendre les textes, mais les propos des savants ne sont pas des textes. Et si on sait que lorsque les savants parlent, ils tiennent compte des réalités, des contextes, ça veut dire qu'on a besoin de la science pour se rassurer que le propos du savant qu'on est en train d'appliquer en un lieu donné s'accorde avec le contexte dans lequel cette parole a été prononcée. Comment est-ce qu'on peut avoir tout ça quand on n'a pas étudié? Comment est-ce qu'on peut tenir compte de tout ça? Règles établies, parce que tout ce que je vous dis là, ce sont des choses claires dans la science. Basées sur les bases de la science. On parlait de quoi? Non? On parlait du troisième fondement qui est la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala que via la connaissance de ces trois fondements. La connaissance d'Allah, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de l'islam à travers les preuves. Ça veut dire que ce que nous pensons d'Allah doit être fondé sur les preuves du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que ceux qui pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout, est-ce que cela relève de la connaissance du point de vue islamique? Non. parce qu'elle ne s'accorde pas avec les textes de la révélation. Allah n'est pas partout. Ar-Rahmanu ala al-Arshi, Tawa, Allah s'est établi sur son trône. Amin tu m'en fais sama. Vous sentez-vous vous à l'abri de celui qui est sur les cieux. Donc Allah est sur les cieux, il est au-dessus des cieux. Établi sur son trône. Les textes sont nombreux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية إن الله قالت الله في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. Lorsque le prophète a fait venir la servante du compagnon qui dans la colère qui avait giflé sa servante dans la colère et qui voulait la franchir, le prophète l'a fait venir, l'a fait appeler sa servante et lui a dit, où est Allah? Elle a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sur les cieux. Le prophète lui a dit, délivre-la, affranchis-la, car c'est une croyante. Ça veut dire que celui qui n'a pas la croyance de cette croyante n'en est pas un croyant. A des problèmes dans ça? Croyance, parce que sa croyance ne s'accorde pas avec les tests de la révélation. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut faire la différence entre accepter la foi et croire. Beaucoup de ceux qui se revendiquent être des musulmans ont accepté la foi mais n'ont pas cru. Donc, parce que le premier degré de la foi, c'est accepter la foi. Ya ayyuha alladhina amanu aminu. Oh, vous qui avez cru, croyez. Il y a une différence entre la première croyance et la deuxième, sinon Allah n'aurait pas ordonné la même chose. Donc, oh, vous qui avez accepté d'adopter la croyance, adoptez-la comme il se doit. Soumettez la croyance, adoptez-la selon les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas que ces derniers ne croient pas en Allah, à l'existence d'Allah, mais leur croyance à l'existence d'Allah ne s'accorde pas avec la science, avec les tests de la révélation, parce que d'après les tests de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône et est sur les cieux. Et subhanallah, c'est pour ça que il y a un mot istimbat de Abi Saïd al-Darimi, rahimahullah. Dans sa réplique à Bishr al-Mirisi, qui était un grand savant parmi les savants des Mu'tazila. Quelqu'un demandait qui sont les Mu'tazila ici hier. Bishr al-Mirisi, c'était une tête parmi les têtes penseuses des Mu'tazila. Et il faisait partie de ceux qui conçoivent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Vous voyez qu'il y a plein de Mu'tazila dans nos sociétés. Ceux qui conçoivent, ça fait partie des croyances des Mu'tazila. Ceux qui croient qu'Allah est partout. Taïd. Abu Saïd al-Darimi rahimahullah dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit alimul ghayb wa shahada, il y a dans cette parole naam, ce qui annule ou alors qui atteste du caractère erroné de la conception de ceux qui conçoivent qu'Allah est partout. Pourquoi? Parce que Allah plusieurs fois dans plusieurs versets s'est vanté comme étant celui qui connaît la science, ce qui relève du visible et de l'invisible. Abu Saïd dit que si Allah est partout, l'invisible est alors où? Et si Allah est partout, qu'y a-t-il d'extraordinaire qui sache ce qui connaît tout? Parce que celui qui est dans cette mosquée et connaît ce qui est en train de se passer dans cette mosquée, il y a quelque chose d'extraordinaire en cela. Mais si quelqu'un vous appelle, non, de la ville, et vous dit qu'en ce moment, voilà le thème que le cher est en train de traiter. Le chef Bonkaï est en train de secouer la tête. Ce serait extraordinaire. Allez, Sakadali. Mais ce n'est possible qu'Allah. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala étant installé sur son trône, étant au-dessus des cieux, sa science a enveloppé toutes les choses. C'est que son regard couvre toutes choses. Et c'est pour ça qu'il maîtrise ce qui se passe dans les cieux et en dehors des cieux. Sur la terre et sous la terre. Ça ne veut pas dire qu'il est partout. Ce n'est pas parce qu'il connaît tout qu'il est partout. Vous avez compris le timba de Abu Saïd ibn Darimi, rahimahullah. Donc, nous devons comprendre les expressions utilisées par la charia à la lumière de la charia et de leur accorder la connotation que leur accorde la charia. Et du point de vue de la charia, les Wahhabites sont des personnes légères, en commençant par la science, parce que la chose la plus lourde, c'est la science. Donc on ne peut être léger qu'à cause du manque de science. Et on ne peut être un poids lourd qu'à cause de la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. On a fini avec les trois fondements. De manière. On a parlé de l'islam, de la connaissance de l'islam. On doit connaître l'islam. On doit connaître l'islam. Yani l'adoration avouée à Allah. On doit la connaître. Et nous avons dit que cette adoration, yani l'ensemble de ces actes d'adoration forment la voie qui est à l'islam. On a dit ça, non? Barakallahu fikoum. Donc maintenant, on a résumé, non? Ubudullaha. Depuis le matin, on parlait de Ubudullaha. Et on va continuer avec Wala Tushrik Bihi Shay'a. Moi, je dois boire avant de continuer.